France Inter.
Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la Corse vers un statut d'autonomie. Accord trouvé cette nuit au ministère de l'Intérieur entre Gérald Darmanin et les élus de Lille. Étape décisive dans ce long processus. S'il arrive au bout, les Corses pourront adapter des lois votées à Paris. Explication dans un instant et réaction à Ajaccio. Coup de filet à Marseille, la police interpelle 13 membres de la DZ Mafia, l'un des deux clans qui ont ensanglanté la ville l'an dernier, c'est une information France Inter. Une loi sur la fin de vie à la française dévoilée par Emmanuel Macron, sujet intime, éthique et politique.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invitée tout à l'heure.
Eh bien c'est elle qui va porter, défendre, incarner le très sensible projet de loi sur la fin de vie devant le Parlement. Venue de la droite conservatrice, elle dit assumer pleinement ce texte progressiste. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, notre invitée à 8h20.
Et on attend vos questions 01 45 24 7000.
Ce matin, nous sommes aussi à Haïti. Le Premier ministre vient de démissionner, mais cela ramènera-t-il le calme dans un pays en plein chaos? On parle de ces méga camions que l'Europe voudrait autoriser sur nos routes et puis des tout premiers plongeons dans la toute nouvelle piscine de Saint-Denis, centre aquatique olympique.
France Inter.
Corse, Aléria 1975, naissance du nationalisme et début d'un long cycle de violence dont le point d'orgue sera l'assassinat du préfet Erignac en 1998. L'histoire retiendra que ce sont d'autres violences, celles qui ont suivi la mort de l'assassin Ivan Colonna il y a 2 ans, qui ont lancé le processus d'autonomie de l'île, des discussions entre Paris et Ajaccio pendant des mois et un pas décisif franchi hier soir. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Gérald Darmanin a de nouveau reçu les élus corses et un accord a donc été trouvé sur un statut d'autonomie inscrit dans la Constitution.
Oui, 2 ans de négociations, un dossier fleuve qui a donc abouti cette nuit. Un accord, un document qui inscrit la Corse dans la Constitution, qui reconnaît son statut d'autonomie. Le mot est inscrit au sein de la République et qui lui accorde un pouvoir législatif élargi. C'était le point dur des négociations. La possibilité d'adapter la loi française au territoire corse, mais dans un cadre strict, défini par une loi organique renvoyée à plus tard. Gérald Darmanin, lui, s'est félicité de cet accord. Les lignes rouges du gouvernement, dit-il, n'ont pas été franchies. Pas de notion de peuple corse dans le document, ni de statut de résident. Un compromis salué par la majorité des élus corses. Un consensus puissant pour Jean-Christophe Angelini, maire de Porto Vecchio, président du groupe autonomiste et d'opposition de droite Anne Van Zemmou. Mais avec des réserves, dit-il, il était l'invité ce matin de France Info.
C'est un moment décisif, bien sûr, que j'aurais préféré que les compétences dont nous souhaitons le transfert soit acté. Ça n'est à ce stade pas le cas. Bien sûr qu'on aurait, pour notre part, préféré que l'on parle d'un peuple plutôt que d'une communauté, mais il était question aujourd'hui d'élaborer un compromis, pas que les uns imposent leur vérité aux autres, et sur un processus politique dont je redis qu'il débute à peine.
Et en effet, la route est longue avant la réforme constitutionnelle. D'abord un vote devant l'Assemblée corse, puis une adoption dans des termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Sénat qui a toujours fait part de ses réserves en matière d'autonomie de la Corse. Si le Parlement est contourné par le pouvoir normatif corse, ce sera un point de blocage, prévient d'emblée ce matin Bruno Retailleau, le patron de la droite sénatoriale auprès de France Inter.
Merci Marie Mollet. Alors il reste encore du chemin à faire, mais cet accord d'hier soir est déjà une véritable étape vers une possible autonomie. Qu'en pensent les Corses qui seront théoriquement appelés à se prononcer dans les urnes? Willy Moreau leur a posé la question tôt ce matin sur le marché d'Ajaccio.
Oui, après 40 ans de lutte armée, notamment cette autonomie dans la République, et certains symboles, mais à l'heure du café, Manuel semble assez désabusé.
Il y a des sujets, je pense, plus sensibles. L'eau, les déchets. Est-ce qu'avec l'autonomie, ça va aller plus vite et on avancera plus vite sur ces sujets sensibles? La question, elle est là.
L'écriture constitutionnelle prévoit une autonomie pour adapter des lois et règlements en Corse. Le cadre n'est pas encore fixé, il le sera par une loi organique. Pas de reconnaissance de la langue corse ni du peuple corse, ce que regrette Hélène, une commerçante du marché central.
Moi, mon fils, je lui apprends le corse à l'école, il y a le corse, donc en fait, ça devrait être reconnu que la langue corse, quoi. Ça, c'est dommage, par contre. Moi, je pense que c'est en nous, en fait, tout simplement. Je pense que c'est à nous de donner les valeurs aux enfants et à ceux qui suivent derrière. L'autonomie, c'est pas ça qui va faire, je pense, pour moi. Après, je veux dire, les valeurs, c'est moi qui les donne à mon fils.
Voilà, première réaction de Corse, plutôt sceptique, recueillie ce matin sur le marché d'Ajaccio par Willy Moreau. En face, sur le continent, il y a Marseille et ce coup de filet, trois jours après l'arrestation du chef du clan Yoda au Maroc. C'est le gang rival du narcotrafic, la DZ Mafia, qui a été visé par la police. 13 personnes arrêtées dans le cadre d'une enquête pour tentative d'assassinat. Les deux clans sont responsables de la majorité des règlements de compte de l'an dernier à Marseille. Leur violence est sans limite. Elle a ici dépassé les frontières de la ville et de la France. Information France Inter que vous nous révélez, Ariane Grissel.
Les auteurs de cette tentative de meurtre sont allés chercher leurs victimes en Espagne, à Empuria Brava, à 40 km de la frontière française. C'est là que ce Marseillais, lui-même connu pour un règlement de compte et du trafic de drogue, a élu domicile. En janvier 2023, il est au volant de sa voiture quand une Peugeot 308 lui barre soudainement la route. Un homme en descend ouvre le feu en pleine circulation. Le quadragénaire est touché 5 fois, mais s'en sort. Ses rivaux n'en restent pas là. 2 semaines plus tard, 2 studios d'enregistrement dont il est propriétaire à Marseille sont incendiés. La vidéosurveillance, les voitures retrouvées et la téléphonie ont mené les enquêteurs de la police judiciaire aux 13 personnes interpellées hier. Mais derrière, ce projet d'assassinat plane surtout l'ombre d'un parrain de la DZ Mafia, soupçonné de continuer à gérer ses affaires depuis la prison de Valence dans la Drôme. Les policiers sont notamment tombés sur des messages dans lesquels ils discutent d'un contrat à 25 000 euros. Tout laisse penser qu'il s'agit de la somme promise pour éliminer un nouveau rival.
Ariane Grissel.
Il est 8h07 là-bas, Florence. Les gangs ont pris la main.
En Haïti, ils tiennent des pans entiers du pays, se battent depuis 15 jours contre la police et demandaient la démission du chef du gouvernement. C'est fait. Ariel Henry lâche le pouvoir. Depuis son refuge de Porto Rico, il est désormais question d'un accord de gouvernance vers une transition pacifique dans un pays qui n'a plus ni président ni parlement et où la population est prise au piège de la violence. Omar Ouaman, envoyé spécial de France Inter, est à la frontière haïtienne. Il a pu joindre des habitants de Port-au-Prince.
C'est une population exsangue que décrit Hervé Noël, journaliste pour Radio Kiskeya à Port-au-Prince.
C'est une population pratiquement à genoux et les autorités qui sont absentes, il n'y a pas de communication officielle depuis près de 2 semaines. C'est une population qui est livrée à elle-même.
Une situation qui a viré au chaos généralisé dans la capitale, privée depuis plusieurs jours de ses 2 poumons économiques, l'aéroport, théâtre de combat, et du port, livré aux bandes armées.
La situation de l'aéroport international avec les vols internationaux qui sont suspendus, Haïti est pratiquement coupé du monde et les ports qui sont pillés, qui sont et maintenant sous le contrôle des gangs.
Une violence qui ne fait qu'aggraver une situation humanitaire déjà extrêmement difficile. Jean-Martin Boer, directeur du PAM, le Programme Alimentaire Mondial en Haïti.
Écoutez, je suis angoissé par la situation. Haïti dépend des importations pour 50% de son alimentation. La fermeture du port de Port-au-Prince est très inquiétante. Elle pourrait se traduire par une raréfaction des produits alimentaires, une hausse des prix. Donc, il faut agir tout de suite. On ne peut plus attendre.
Si la paralysie se poursuit, des milliers de femmes enceintes pourraient ne plus pouvoir accéder aux soins de santé essentiels et vitaux en cas de complications, ont alerté des représentants des Nations Unies.
Omar Ouaman, envoyé spécial de France Inter aux portes d'Haïti. Un ramadan sous les bombes à Gaza, pas de trêve en vue. Le Hamas parle de 67 morts en 24 heures. Une des frappes a visé le numéro 2 de la branche armée du mouvement, annonce l'armée à Jérusalem, ciblée dans une base souterraine du centre de Gaza. Le soutien de la France à l'Ukraine, débattu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, un vote symbolique, conclura les débats sur fond d'affrontement entre la majorité, le Rassemblement National et la France Insoumise en pleine campagne pour les européennes. L'Europe, où l'on va parler poids et dimension aujourd'hui. 60 tonnes et 25 mètres de long, faut-il autoriser les méga-camions dans l'Union ? Le Parlement va devoir se prononcer. Pour les promoteurs de cette directive, cela permettrait de transporter plus de marchandises par trajet. Ce serait donc bon pour la planète. C'est tout l'inverse, selon l'eurodéputé écologiste Karima Delli, présidente de la Commission du Transport.
Souvent, on nous dit, mais attendez, un gros camion va émettre moins de CO2. Toutes les études montrent le contraire. Ça veut dire qu'on va mettre encore plus sur la route. Et ces mesures vont générer 10 millions de camions en plus. C'est 6 millions de tonnes de CO2 par an. Et un report inversé. On aura plus de 20% de camions sur nos routes que sur le train. Alors que le train, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, mais véritablement, c'est notre objectif commun de relancer le fret. Et on sait que ça pollue beaucoup moins de la route, parce que ce qu'on ne vous dit pas derrière le projet de loi, c'est que ces méga camions, sur, entre guillemets, le prétexte de décarbonisation des transports, donc des camions géants demain à l'électrique, que nous n'avons pas. Ça veut dire qu'on aura aujourd'hui des camions au diesel. Et ça, ce n'est pas acceptable.
Karim Adeli au micro de Mathilde Munoz dans le 5-7 d'Inter. La majorité française du groupe Renew est sur la même ligne à Bruxelles. Un agent de la SNCF tué cette nuit à la gare de Dijon, percuté par un train de marchandises alors qu'il faisait de la maintenance avec un collègue qui a été blessé. C'est une information France Bleu Bourgogne. Oubliez le calme et le silence. À la campagne aussi, il y a du bruit et c'est la vie. Pas la peine de porter plainte contre son voisin agriculteur s'il était là avant vous. C'est lui qui aura raison. C'est inscrit dans une proposition de loi déjà votée à l'Assemblée et qui passe devant le Sénat aujourd'hui. Alors, vous voulez du bruit, vous allez en avoir. Dans le village de Gajac, on défend les sons de la campagne. Son maire avait même voulu les faire classer au patrimoine de l'UNESCO il y a quelques années. Reportage Hugo Deschamps.
Lorsque l'on arrive dans le village, les premiers panneaux annoncent la couleur.
La vie à la campagne, c'est ça.
La campagne est un lieu de vie avec ses champs, ses senteurs et ses activités. Respectons-la. Voilà ce que l'on peut lire. Et Josette le sait très bien, ça fait 65 ans qu'elle vit ici.
Si on vient à la campagne, c'est parce qu'il y a de l'espace, mais il y a la tondeuse qui marche, il y a tout plein de bruit qui se font.
Justement, la maison de François est entourée de jardins et d'enclos. Et juste derrière, un voisin passe la tondeuse. Les bruits, il est habitué.
Il y a les canards. La nuit, qui on les entend, là il y a des poules aussi, bon, voilà, il y a les tracteurs qui passent.
2 ans qu'il vit à Gajac, et pour lui, ça n'a jamais été un problème.
Voilà, c'est la campagne, quoi. C'est important qu'on préserve ça. Oui.
Direction la ferme. C'est ici que Myriam élève depuis plus de 30 ans des moutons, des vaches et des porcs avec son mari.
Nous, nos porcs sont en plein air, donc souvent le bruit c'est quand on les soigne, enfin quand on les nourrit.
Pour l'éleveuse, il faut que les agriculteurs soient mieux protégés par la loi.
Mais maintenant, il faut que les gens qui arrivent, ils nous trouvent là, ils n'ont pas à nous dicter comment on doit vivre. Et les bêtes, on ne peut pas fermer leur bouche non plus, hein. Si ça ne leur plaît pas, c'est à eux de bouger et pas à nous.
Mais elle se rassure, depuis 1993, elle n'a jamais eu de problème avec ses voisins à cause de ses bêtes.
Voilà, reportage Hugo Deschamps, France Bleu Gironde. Du bruit de la campagne au silence des bibliothèques, surtout quand elles sont fermées, mais qu'on peut quand même y aller. Ce que proposent 2 médiathèques du Val d'Oise depuis quelques mois, une première en France. Les abonnés peuvent venir y emprunter des livres ou travailler hors des horaires d'ouverture. Et en l'absence des bibliothécaires, concept adopté avec bonheur. Faustine Calmel à Cormeil en Parisie par exemple.
À la bibliothèque, on recherche la compagnie des livres et du silence, mais ici un lundi, jour de fermeture plus encore, car pour entrer il faut scanner son badge après s'être préalablement inscrit au programme Open Plus.
Ce matin, j'étais toute seule, j'étais la seule dans la médiathèque.
Mariella, étudiante en biologie, révise.
Ça fait un peu peur au début, au fur et à mesure on s'habitue, on s'en laisse, en fait j'ai l'impression d'être à la maison, en fait c'est marrant.
Au rez-de-chaussée, Corinne rapporte un roman, elle qui lit.
Un livre par semaine à peu près. Ce que j'apprécie, c'est le fait de pouvoir venir quand j'ai envie de venir, vous voyez, là je vais chercher ma petite fille en haut, j'ai des bouquins à déposer, je dépose, voilà, donc c'est la disponibilité, quoi.
La grand-mère croise Arthur qui mange son goûter.
Quand je rentre de l'école, il y a maman qui vient et je vais à la médiathèque. J'aime bien aller voir les mangas ou les BD pour voir s'il y a des BD que j'aime bien.
Près d'un millier de Valdoisiens bénéficient de ce dispositif qui leur permet de venir 7 jours sur 7 jusqu'à 22 heures en 5 mois. Aucun acte de malveillance à signaler, Hugo apprécie.
C'est un pas supplémentaire sur la magnifique invention de la bibliothèque. J'espère sincèrement que les gens vont pouvoir avoir un peu la chance qu'on a d'avoir cette confiance qui nous est donnée.
Les lieux sont quand même vidéosurveillés. Le système pourrait s'étendre à 2 autres médiathèques du Val-d'Oise l'an prochain.
Faustine Calmel, enfin, dans le Festival des Sons du Jour. Ceux qui vont suivre résonnent. Et c'est normal, puisque nous sommes à la piscine, au nouveau centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui accueillera cet été les épreuves de water-polo, de natation artistique et de plongeon. Et justement, ce sont les plongeurs de l'équipe de France qui sont en train d'être traîner le bassin en ce moment. Premier plongeon qui n'ont pas éclaboussé Jérôme Val, puisque contrairement à nous, les athlètes ne font pas de bombe.
Les sauts à 3 mètres ou 10 mètres s'enchaînent sous l'imposante voûte de bois du CAO.
Ça fait longtemps qu'on rêve de cet endroit.
L'expérimenté Gary Hunt, spécialiste du haut vol, est sous le charme.
Ça atteint nos rêves. Je trouve que c'est une taille vraiment idéal. C'est de loin la meilleure piscine de la France.
Et c'est un cadeau inespéré pour cette équipe de France qui, faute d'infrastructures suffisantes, est obligée de s'entraîner à Strasbourg ou à l'étranger. Clémence Monnery est la directrice du plongeon tricolore.
Ah ouais, ça fait du bien de ne plus prendre le train, d'aller à droite à gauche, de savoir qu'on peut s'entraîner un peu quand on veut. La métropole du Grand Paris, ils sont top avec nous, donc franchement, c'est royal, quoi. On n'est plus obligé de galérer.
Alors les Bleus en profitent. Ils regardent vers les tribunes aujourd'hui vides, 5000 places qui seront remplies cet été. Difficile à imaginer pour Émilie Halifax et Jade Gillet.
S'il y a vraiment les gradins remplis, ça va être énorme. C'est impressionnant.
C'est encore tranquille.
Mais pas de pression. Ouais. Pas de pression. On est contents d'être là.
Oui.
La séance est finie. Les plongeurs se rhabillent avec le casque de chantier et une chasuble fluo. Les ouvriers sont encore là. Les travaux ne sont pas totalement terminés.
Un reportage signé Jérôme Val. Moi, je vous laisse, Nicolas, parce que vous savez quoi ? Ben, j'ai piscine.
Ah bah voilà. Merci Florence Paracuelos. 9h20, je vous le rappelle, Léa Salamé reçoit la styliste Marine Serre, la météo Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Une matinée sous la grisaille, Marie-Pierre.
Oui, sur les trois quarts du pays, car d'un côté, on a la perturbation d'hier qui s'évacue par l'est et donne encore quelques petites pluies de la Lorraine aux Alpes avec de la neige au-dessus de 1100 mètres. Et de l'autre côté, on a une nouvelle perturbation qui arrose déjà la Normandie, puis le Pas-de-Calais, l'ouest francilien, avec un bon vent de sud-ouest près de la Manche, avec quelques bruines aussi en Bretagne et sur les Landes. D'ailleurs, le ciel est bien chargé, donc avec des pluies éparses, quelques flocons aussi sur le massif central, alors qu'autour de la Méditerranée, jusqu'aux Pyrénées, le ciel est plus lumineux, avec un risque d'avalanche sur le relief pyrénéen, dans une ambiance plutôt douce. Il fait 12 sur le Finistère comme dans les Landes, alors qu'on relève un petit degré en Ardèche, à Gros-Pierre ou en Corse. Vous avez 8 à Paris, 6 à Strasbourg comme âge.
Et pas beaucoup d'évolution cet après-midi.
Non, si ce n'est un petit espoir que le ciel réussisse à s'éclaircir sur la façade atlantique grâce à une poussée anticyclonique sur la péninsule ibérique. L'anticyclone qui va venir se positionner d'ailleurs sur la France et la Suisse qui apportera un petit air printanier à jeudi. En revanche, les pluies arrivées par le nord vont glisser vers le sud jusqu'au massif central. Sur la façade est, le ciel hésitera entre petites éclaircies et quelques flocons sur le relief et toujours une belle amélioration dans le sud. Sous des valeurs de saison, plus bas il fera 6 dans le Vercors à Villard-de-Lans, 11 à Arras, 12 à Paris, 13 à Lyon, 15 à Lyon d'Angers, 16 à Dax, 17 à Bastia et 18 dans le Var à Colobrières, en se rappelant, Nicolas, qu'en mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.
C'est profond, ça, très très profond ça. Merci Marie-Pierre. Il est 8h17. Oh.